Bonjour, bienvenue au Frac Paca, dans lequel Eric Attan présente Habiter l'inhabituel, une relecture très personnelle de l'architecture du lieu. Rendez-vous à l'entrée pour le début de cette visite en compagnie de l'artiste et de Pascal Neveu, directeur du Frac.
C'est une aventure qui remonte à quasiment maintenant 7 ans, puisque Eric est venu à Marseille pour la première fois découvrir le Frac au moment où on savait que l'on s'engageait sur la construction d'un nouveau bâtiment. Et lui-même étant très sensible à l'architecture, je l'avais invité en fait à faire un travail de repérage par rapport à l'espace que nous occupions à la Vieille Charité et de se projeter dans l'aventure du Frac.
Nous sommes ici dans ce bâtiment nouveau. Ce qui est important pour moi de dire que j'étais 2-3 fois sur le chantier même. Je connais déjà très bien ce bâtiment. L'architecture, et ça c'est déjà un point de départ pour moi, l'architecture d'un immeuble. D'apprendre comment fonctionne un bâtiment, quels sont les plans, quelles étaient les idées de l'architecte, quels sont les couloirs, comment est le traversé d'une expo. Et quels sont les petits détails qui peuvent me servir comme inspiration.
On se connaît suffisamment pour faire en sorte que Eric soit aussi dans une certaine autonomie et c'est quelqu'un qui en plus travaille vraiment en solitaire et développe véritablement cette attention très très personnelle. Donc c'était vraiment une suite d'échanges pour en arriver ensuite à des propositions concrètes pour cette exposition. Eric procède vraiment par déambulation, il observe beaucoup, il fait tout, il touche à tout, que ce soit la performance, l'architecture, l'installation, le recyclage d'objets, le fait d'être vraiment en veille permanente et très très attentif à tous les petits gestes du quotidien. Donc il se constitue vraiment un bagage d'éléments, que ce soit des éléments de matériaux, de récupération, de recyclage, à des fins d'installation. Il constitue vraiment une sorte de boîte à outils qui va l'amener ensuite à produire des pièces nouvelles.
Approchez-vous des chaussures au pied de l'escalier.
Et là, on est devant cette première œuvre qui s'appelle cage d'escalier. C'est vraiment un cage d'escalier. Nous sommes en dessous de l'escalier. À l'entrée, un espace ouvert, mais séparé par un gris. On n'a pas vraiment accès. Et là derrière, il y avait quelques paires de chaussures. Ce sont mes chaussures, des chaussures que moi j'ai portées. Ça parle de moi-même, c'est mon histoire, mais c'est tout d'abord une geste, dire « voilà, là je suis arrivé, je suis chez moi, c'est mon espace pour quelque temps ». Et on voit aussi, je ne sais pas le nom en français, il y a des trucs dans les chaussures pour les tenir bien. Alors ce sont mes chaussures à l'entrée de ce bâtiment, comme pour dire « voilà, je suis là, je suis arrivé ici ». Mais ce qui est important dans toutes mes œuvres, et je le dis au départ, si quelqu'un d'autre voit quelque chose d'autre là-dedans, c'est complètement ouvert. Moi, j'aime bien que quelqu'un ajoute ses propres histoires là-dedans. Ce n'est pas une seule solution.
Dans l'idée de cette exposition, la référence à Pérec, elle s'est imposée progressivement dans la recherche du titre de l'exposition. On était vraiment dans une volonté de ne pas être dans une dimension critique de l'architecture et d'être sur un positionnement d'un artiste qui, à un moment donné, nous livrerait son point de vue sur la réalisation de Ken Kokuma, mais au contraire, d'inviter le spectateur à être dans une démarche de renouveler son regard et de renouveler d'attention par rapport à cet espace qui est encore à découvrir pour un grand nombre de personnes. Donc Perec s'est imposé aussi par rapport à la proximité avec les façades arrière des immeubles du boulevard de Dunkerque. Donc on a pensé évidemment à la vie mode d'emploi dans un premier temps. Et puis j'ai relu Espèce d'espace. On était vraiment en totale symbiose avec l'écriture de Perec. Et puis peu à peu, dans cette lecture, sont venus un certain nombre de mots, de références, et d'où le titre « Habiter l'inhabituel », qui est vraiment tiré de cette référence à Perec. Mais c'était une façon aussi un peu plus didactique de donner aux visiteurs un certain nombre de clés de lecture sur la démarche vraiment d'inventaire et de collecte d'informations, d'éléments architecturaux à laquelle opérait Eric.
Je pense qu'on va
aller vers le vestiaire.
Continuer, on est là dans l'accueil, le hall d'accueil. Et là, devant l'accueil, où tout le monde doit se présenter, il y a à côté une étagère qui sert en même temps comme vestiaire. Alors, c'est ce que j'ai remarqué tout de suite, il manque une vestiaire. Alors j'ai ajouté un élément pratique et en même temps cet élément pratique me sert pour présenter une œuvre la plus ancienne dans l'expo qui s'appelle Le Coin. En fait, ce sont sur 10 moniteurs. On voit un coin dans une petite rue à Paris. C'est un coin où les gens déposent leurs choses. Même si c'est interdit, mais c'est devenu un lieu d'échange. Et c'est ça qui m'intéresse, cet échange, ce processus culturel qu'il y a là-dedans. Une sculpture parfaite pour moi.
Dirigez-vous vers les quelques marches qui mènent en contrebas au plateau numéro 1.
Après, on continue. On est toujours dans le hall d'entrée, devant les escaliers qui descendent. Là, il y a une pièce, ce qui est un lampadaire, que j'appelle main courant, parce qu'il y a 4 mains courants pour descendre dans cet espace. Et moi, j'ai posé sur une de ces mains courantes un lampadaire public de la ville de Marseille qui nous a été prêté à l'envers.
Alors, l'espace public a toujours été pour Eric Attane un espace artistique à part entière. Il en a fait vraiment un travail à la fois sculptural. Donc on a ce lampadaire qui occupe une position vraiment première dans l'entrée, puisqu'il se trouve vraiment dans la cage d'escalier qui permet d'accéder au plateau. Et c'était aussi ce jeu d'inversion intérieur-extérieur, puisqu'on est à un passage du bâtiment où on est en connexion directe aussi bien avec les habitations du cœur d'îlot qu'avec la rue Vincent-Leblanc. Donc il y avait cette volonté aussi d'intégrer un élément purement du mobilier public, d'éclairage tout à fait classique, comme étant un élément de signal du départ, en quelque sorte, du commencement de ce programme.
Pourquoi lampadaire ? Il y a entre autres cette notion que c'est une lumière dans l'espace public. Alors lumière veut dire illuminer quelque chose. On est dans un espace public, mais même un peu privé à l'intérieur. Alors c'est un accès de l'extérieur vers l'intérieur qui donne de la lumière. C'est une sculpture. En haut, on a un travail qui s'appelle « Sans tambour ni trompette ». C'est un sort de rideau, parce que je voulais cacher un peu la vue qu'on a en haut de cet escalier pour qu'on ne voit pas tout de suite tout ce qui se passe là en bas. Cette pièce-là, ce rideau, devient au long du salle une autre pièce qui est une sorte de liane jusqu'au milieu de l'espace. Et là, ça a le titre sans crier gare.
Alors, ce cri est aléatoire. Pourquoi ce cri de Tarzan ? Ben, ça, c'est une longue histoire, mais c'est une notion aussi avec un pouvoir, un certain pouvoir. Sauvage aussi, bien sûr, sauvage. Sauvage, mais quand même très culturel, parce que Tarzan, c'est une invention. Mais sauvage et...
Oui.
Bon, on descend.
Bah, je pense que la première surprise que le visiteur va avoir en arrivant, c'est de découvrir un espace vraiment totalement immaculé. C'est-à-dire un espace qu'on a essayé de rendre le plus neutre possible en jouant vraiment sur des insertions d'œuvres, d'installations, de pièces très discrètes.
Laissez-vous guider. Prenez le temps. Soyez attentif aux détails.
Et là, finalement, on voit la salle et on constate peut-être tout de suite qu'il y a peu de choses là-dedans. La salle est presque vide. Ce qui m'a inspiré là-dedans, c'est la salle lui-même. Je dirais là, en bas, j'expose la salle d'exposition.
Donc on opère véritablement à une modification de cet espace.
Pascal Neveu.
Qui s'opère vraiment sur la question de dupliquer, d'explorer, de renouveler la perception de cet espace avec des éléments d'architecture qui sont repris et qui sont repris dans leur fonction même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de détournement de l'objet, c'est vraiment l'objet est utilisé. Il y a un certain nombre de portes, on ne sait pas où elles donnent, il y a une sorte de mystère qui se dégage de la présence de ces grandes portes ou petites portes. Il y a des éléments visuels aussi qui permettent qui sont des points d'attraction avec des lumières particulières, des judas, donc qui nous invitent aussi à regarder au-delà de l'espace ce qu'il se passe réellement. Et puis toute une série d'éléments plus techniques auxquels on fait généralement abstraction et qu'on essaye de masquer le plus possible, qui concernent là vraiment l'infrastructure du bâtiment. Ces gaines d'aération, de chauffage, ces trappes de désenfumage, qui là sont vraiment pris comme des objets à part entière et reproduisent le schéma du tableau classique. C'est-à-dire que l'artiste, Eric, a souhaité jouer avec ce vocabulaire formel et en ajouter un certain nombre dans l'espace. Ce qui fait qu'il y a une véritable confusion, en tout cas questionnement qui opère chez le visiteur entre ce qui relève véritablement de la fonction première, technique, pratique du bâtiment et les éléments ajoutés pour créer ce trouble chez le visiteur et qui ont une caractéristique purement plastique en fait et qui peuvent là aussi renvoyer à plein de pistes d'autres œuvres et d'autres artistes si on veut bien se livrer à ce jeu de référence en fait.
Après il y a des colonnes, il y a des portes, il y a des évacuations de fumée, des trappes.
Eric Hatton.
Sortie de secours, non, sortie tout simplement. Et comme ça, il y avait déjà pas mal de choses dans cet espace vide. Et j'ai voulu travailler sur ce vide et mettre ce vide ou peut-être mettre cet espace en valeur ou en doublant pas mal de choses.
Alors les effets de surprise sont aussi tout à fait masqués. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté d'amener le visiteur dans un parcours qui soit très balisé. Au contraire, certaines pièces peuvent apparaître ou totalement disparaître et s'effacer. Et en l'occurrence, on a dans la cage de l'ascenseur et l'espace qui sert d'accès aux personnes à mobilité réduite, un moniteur qui nous renvoie en fait l'image d'un espace qui existe dans ce bâtiment mais qui est inaccessible. Donc là aussi, Eric Hatton a beaucoup travaillé sur la question de la circulation, des espaces interdits, des espaces qui n'ont aucune fonctionnalité, mais qui existent physiquement, qui sont là, présents. Et donc on a une sorte de webcam permanente entre ce qui se passe dans cet interstice, entre deux murs, et qui est donné à voir, mais là aussi en poussant une porte aux visiteurs de trouver où se situe cette installation. En fait.
Là, on est devant la première œuvre en bas qui s'appelle Sculpture, c'est un jeu de mots aussi, c'est Türe en allemand, c'est porte.
Donc on est dans une occupation de l'espace très fonctionnelle au quotidien par rapport aux usagers du FRAC, aux salariés du FRAC. Et donc Eric a beaucoup travaillé sur cette question-là en dédoublant là aussi les espaces d'ouverture. Donc on a une inversion des portes, on ne sait plus si les portes sont les portes d'origine, d'autres accès possibles ou pas. Il y a une inversion aussi du sens d'ouverture des portes qui là aussi perturbe le regard du visiteur.
Il y a cette porte
qui est l'accès vers l'ascenseur. L'ascenseur qui est réservé aux personnes à mobilité réduite, c'est pas pour le grand public, mais c'est quand même un accès direct pour aller aux étages. Et j'ai doublé cette porte par une deuxième porte, et comme ça, il y a dans toute la salle beaucoup d'éléments qui sont doublés. Et dans ce petit espace devant l'ascenseur, j'ai mis une installation, il y a une télé là-dedans, comme une télé de surveillance, mais ça parle d'un espace caché qui fait partie de l'ensemble du bâtiment, et c'est aussi ça qui m'intéresse, être curieux, qu'est-ce qu'il y a derrière les murs, comprendre l'architecture, comment c'est construit. On sort là et on est dans la grande hall. On est dans la grande hall. Il y a déjà une chose à remarquer, il y a le texte du commissaire de l'expo de Pascal Neveu.
Il y a une mise en scène aussi de tout ce qui relève de la mise en lumière de l'espace, de la présence de l'eau dans le bâtiment aussi, avec l'installation de nouveaux câblages. Donc le visiteur peut à volonté éteindre ou allumer les rails de néon de la salle. Le tout semblant être une installation tout à fait factice, mais qui au final s'avère être une installation tout à fait réelle et qui effectivement permet d'alimenter ou pas le réseau d'électricité. De même avec la présence de l'eau, il y a un petit robinet présent avec une canalisation qui semble posée là comme une sculpture, comme une installation. Le visiteur voulant tenter de savoir s'il y a une présence de l'eau ou pas peut tout à fait ouvrir le robinet et constater par lui-même qu'effectivement l'eau est bien présente.
Faites une pause pour être à l'écoute de l'eau qui coule. Puis reprenez le cours de la visite.
Donc il y a vraiment ce jeu entre ce qui peut apparaître factice et qui au final est un élément ajouté mais qui conserve une fonction concrète dans cette exposition. Et donc toute l'exposition procède de cette dynamique, d'être véritablement à chaque fois dans l'effet d'interrogation, de perplexité dans lequel le visiteur peut être plongé et qui l'emmène ensuite à découvrir vraiment toute l'infrastructure du bâtiment. La pièce centrale monumentale qui peut pour le coup être tout à fait anodine et surprenante pour le visiteur, c'est l'opération du dédoublement des piliers de la grande salle, élément que Eric avait repéré sur la base des plans et du chantier comme étant un élément clé et très très typique qui connotait vraiment fortement cet espace d'exposition. Et donc il a souhaité vraiment dans un jeu de miroir, puisqu'il a rajouté quatre piliers qui sont aux emplacements même des piliers qui structurent les réserves en sous-sol. Donc il y a une continuité de l'espace souterrain des réserves au niveau moins 2 qui en fait réapparaît au niveau moins 1 avec ces quatre nouveaux piliers et toujours un petit élément indiciel tout à fait modeste qui amène un trouble et une réflexion chez le visiteur puisque sous l'un de ces piliers est coincé une veste de costume. Donc il y a un petit signe qui permet d'un seul coup de basculer de la réalité concrète de cette architecture à une dimension totalement fictionnelle et narrative avec cette histoire qu'Éric nous raconte par rapport à ce bâtiment.
Cette veste qu'on voit ici a un emplacement inattendu et bien sûr un des éléments pour troubler la chose, pour sortir la chose du normal, entre guillemets, pour qu'il y ait une trace de quelque chose d'autre et après on peut créer des histoires autour. Mais c'est vrai, cette veste est d'abord là pour attirer et pour troubler. Alors j'ai joué sur ça, j'ai ajouté des éléments sans expliquer trop. Ça c'est vraiment, je pense, aux visiteurs de découvrir, de se poser les questions. Est-ce que ça c'est du vrai ou du faux? Est-ce que c'était toujours comme ça? Ça parle aussi un peu de l'histoire. L'histoire de ce bâtiment est très jeune. C'est que la quatrième expo qui se fait là-dedans. Ce qui veut dire que beaucoup de personnes ne sont pas habituées à cet espace. Et moi, j'aimerais montrer l'espace dans un état brut, tel qu'il est, d'un premier point de vue. Et d'un deuxième point de vue, il y a beaucoup de travail là-dedans. On a travaillé à plusieurs personnes pour faire cette installation qui a l'air d'être de rien.
Lorsqu'Éric a découvert le projet, il a tout de suite été interrogé sur la dimension de ces grandes trappes qui constituent à la fois une contrainte forte dans notre exploitation de cet espace au niveau moins 1. Et là, il a vraiment opéré sur cette dimension de duplication d'éléments techniques, créant une ambiguïté réelle pour le visiteur, pour le spectateur, recréant ces paires de trappes de désenfumage où l'on ne sait plus lesquelles sont véritablement fonctionnelles, ne le sont pas, en rajoutant, donc il y a un élément de renvoi qui sont quasiment des formats tableaux, donc on est presque face à des objets qui pourraient renvoyer à l'art minimal, à l'art conceptuel, mais en même temps, on ne sait plus en fait où est le vrai du faux et où est la dimension technique, au contraire, purement esthétique, purement décorative. Donc ça s'opère avec ces trappes de désenfumage, ça s'opère aussi avec ces trappes métalliques qui renvoient vraiment à la grille, à la question de la grille, qui est quand même un élément structurant de tout l'art, l'art minimal et de l'art conceptuel, où là aussi on est face à une nouvelle grille installée dans cet espace qui révèle aussi l'envers du décor, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe derrière nos murs. Donc il y a cette volonté aussi d'un seul coup de donner à voir des éléments qui sont généralement installés et masqués le plus possible, d'un seul coup deviennent vraiment des éléments liés à l'accrochage de l'exposition. Donc c'est vraiment une exposition qui s'appréhende en étant vraiment dans une dimension de curiosité, d'intérêt, d'enquête quasiment sur ce qui se donne à voir, à lire dans ce bâtiment, et pas dans une dimension d'un parcours réel avec un sens de lecture des œuvres. On est plus dans une interrogation permanente où le visiteur doit faire preuve à la fois d'esprit critique, de jugement, de curiosité et de se laisser abandonner à des signaux parfois vraiment inframinces que Éric Attane peut nous donner par moment et qui perturbent notre lecture d'un espace qui, le temps de cette exposition, est vraiment mis à nu en fait.
Est-ce que cette façon d'intervenir dans cet espace, c'était une manière pour vous de prendre possession des lieux ?
Éric Attane ?
Oui, prendre possession. Alors, posséder quelque chose pour un certain temps, bien sûr, mais de m'adapter à ce lieu et de le faire connaître, comme je disais, de me sentir bien là-dedans.
De laisser ses chaussures à l'entrée, comme on fait chez soi ?
Oui. Être chez moi. Et moi, j'aime bien avoir des espaces vides. Moi, j'aime bien d'avoir des espaces rangés. Moi, j'aime bien de faire du rangement, même si je sais, si on fait du rangement, il reste toujours un coin avec du chenil. Il y a toujours des restes. Ce qui est normal, ce qui veut dire ici, sur place, on a un espace propre, nettoyé, blanc, mais derrière des portes, il y a d'autres histoires. Et ça fait partie de l'ensemble de penser à qu'est-ce qu'il y a derrière.
Votre travail, il part toujours du réel. C'est la base du travail. Est-ce que, ensuite, c'est pour créer de l'illusion, une sorte de trompe-l'œil ? Est-ce que c'est un travail d'illusionniste que vous proposez ici ?
Question difficile. Je ne sais pas exactement quoi dire.
Pascal Neveu.
Je dirais plutôt révélateur. C'est-à-dire que la dimension de falsification, du trompe-l'œil, est peut-être chez Éric Attane moins présente que celle de vouloir révéler véritablement les espaces que nous occupons.
Est-ce que c'est une illusion ? Oui, peut-être chaque expo est une illusion. Peut-être chaque œuvre d'art est une illusion.
Est-ce que l'idée, c'est pas aussi de mettre à l'épreuve le regard du spectateur.
Absolument, absolument, ça c'est clair. Mais c'est d'abord, c'est moi qui fais attention. Et bien sûr, par mon travail, j'essaye de mettre le spectateur aussi dans cette situation, qu'il développe une manière de regarder, mais sa manière de regarder. Moi, je ne dirais pas « c'est comme ça ». Il y a toujours plusieurs solutions pour la même chose. Mais c'est vrai, c'est bien sûr, c'est ça de faire attention et d'essayer que le public fait attention aussi.
Il y a deux choses qui sont vraiment apparentes, c'est le double et le vide. Mm-hmm. Presque deux notions contradictoires d'ailleurs. Puisqu'en général, quand on double, il y en a plus. Et là, on a l'impression qu'il y en a moins.
Oui, j'aime bien ça. Oui, sans me rendre vraiment compte que c'est comme ça, mais c'est juste, c'est absolument bien cette notation. Hein. Non, le vide, ça peut être beaucoup.
Revenez sur vos pas. Après habiter l'inhabituel, voici quelques mots sur la suite de cette exposition que le Frac PACA consacre à Eric Attan, sur le plateau 2, à l'étage au-dessus.
Alors, si on arrive en haut par les escaliers, comme il faut, on est dans une couloir et en arrivant dans ce couloir, en s'approchant vers la salle d'expo, il y a un moment donné où il faut se décider, est-ce que j'y vais à gauche ou à droite, parce qu'il y a, des rideaux qui séparent l'espace. Et pourquoi des rideaux de douche? Parce que tout d'abord, je voulais accrocher quelque chose, faire un sort de fil de linge. Je vois bien qu'en face, il y a de l'habitation, il y a des balcons, les gens mettent leur linge, que j'aime bien. Et les rideaux de douche parlent encore plus d'une intimité.
On est vraiment sur deux propos qui dialoguent sur deux espaces différents. Sur le premier niveau, on est dans une dimension vraiment liée à l'architecture, à la redécouverte du lieu par le regard qui est porté et volontairement orienté par rapport aux visiteurs à découvrir un certain nombre d'objets qui là font référence directe à l'architecture. Au plateau 2, on est sur une autre dynamique, c'est-à-dire que là, on a vraiment posé un ensemble d'œuvres, on est vraiment dans un corpus d'œuvres qui tient presque d'une micro-rétrospective, en fait, puisqu'il y a des éléments constitutifs qui sont des pièces plus anciennes d'Éric, mais qui toutes sont en lien les unes aux autres et opèrent là aussi une sorte de fil conducteur avec le bâtiment, que ce soit à travers cette série de rideaux de douche qui permet justement d'inviter le visiteur à déambuler et lui donnant la possibilité de choisir un parcours ou un autre en fonction du sens de la visite que le visiteur souhaite appréhender. Et puis, des éléments constitutifs qui renvoient à des pièces anciennes. Le travail vidéo, qui est très présent dans l'œuvre d'Éric Attan et qui, là, est dispatché dans différents éléments, que ce soit un garage en tôle ondulée réinstallé au milieu de cette salle, ou le hibou, ou ce clair de lune, qui sont des petits focus qui amènent le visiteur à élever son regard et à parcourir cette salle. Et puis au centre, on souhaitait véritablement montrer la pièce, l'installation Beyrouth, qui a été acquise par le FRAC en 2011. Donc ça faisait là aussi partie du compagnonnage engagé avec Eric. C'était à un moment donné aussi de pouvoir acquérir une pièce. Et cette pièce, elle pose aussi la question de l'espace public, de la convivialité, de l'échange, puisqu'elle procédait d'une résidence au Liban et d'un troc effectué avec les habitants pour pouvoir échanger les chaises usagées qu'ils utilisaient devant leur pas de porte pour échanger le soir, discuter tous ensemble, et où Eric a fait preuve là aussi d'un esprit de négociation pour pouvoir acquérir l'ensemble de ces pièces, donc de ces chaises, il y en a 23, qui constituent une sorte d'agora que le visiteur d'ailleurs peut utiliser ou pas. On peut tout à fait imaginer que les visiteurs s'assoient sur ces chaises. Et elle renvoie aussi à cette dimension méditerranéenne et à cette dimension d'échange qu'on souhaitait avoir dans cette exposition. C'est-à-dire que ce n'est pas une exposition où on est dans une contemplation passive, mais au contraire, le visiteur est amené à chaque fois à être dans une déambulation et à s'interroger sur le statut des objets, des œuvres, des vidéos qui sont présentées.
Merci de votre écoute et de votre attention. Vous écoutiez l'artiste Eric Attan et Pascal Neveu, directeur du FRAC. Cette visite sonore vous était proposée par le FRAC PACA et Radio Grenouille. Réalisation Xavier Thomas.